France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le président américain à l'écran.
Le seul vote important, c'est celui du super mardi. Officieusement, Hoynes n'a pas 9 points d'avance en Californie. La course est ouverte, bien sûr.
Les données en progression de 5 points à New York par ses troupes.
Il a déjà fait campagne là-bas 157 fois au moins. Il doit avoir sa licence de taxi maintenant.
Vous misez sur le vote des latinos comme en Arizona et au Nouveau-Mexique.
Que disent vos sondages internes ?
Pas de commentaire à ce sujet.
Ce Super Tuesday, les électeurs républicains sont invités dans 10 États à la fois à départager les 4 principaux candidats encore en lice pour l'investiture de leur parti. Y aura-t-il encore ensuite de nombreux épisodes ? Là est la question. Les primaires aux États-Unis ressemblent en effet à un film, ou mieux encore, à une série télévisée avec tournants et segments, ceci étant défini aussi par les coupures publicitaires, les séries comme les campagnes électorales vise des cibles. Dans les fictions, les traits des présidents élus sont plus accusés que dans la réalité. Dans 24 heures chrono, le dangereux Logan est pervers jusqu'à la moelle, bien pis que son modèle Nixon. Mais le dit Logan avait été précédé aux commandes par le grand Palmer, qui face aux grandes crises dépassait de loin en intelligence Bush Junior. Auparavant, l'autre grande série vedette à la Maison Blanche avait installé dans le bureau ovale l'incomparable Bartlett, lequel avait une autre cohérence et une autre vertu que Clinton. C'est à se demander si les fictions réussies sur grand et petit écran n'expriment pas chez leurs auteurs et surtout leurs spectateurs un désir de politique au sens fort du mot, avec un grand P, désir d'autant plus ardent qu'il n'est pas nécessairement satisfait par le pauvre feuilleton qu'offre souvent la scène électorale aujourd'hui. Marjolaine Boutet, bonjour.
Bonjour Jean-Lebrun.
Je ne sais si vos collègues de l'université de Picardie vous prennent au sérieux, puisque vous êtes une spécialiste de culture pop.
Absolument, je m'intéresse aux séries télévisées, aux histoires de vampires et à tout un tas de sujets peu orthodoxes.
Culture pop, c'est le titre d'une collection aux éditions Ellipse, où vous publiez souvent, et notamment avec d'autres auteurs, Sériscopie, un guide thématique des séries télé. Alors notre matériel aujourd'hui, ça va être des films américains et des séries télé américaines. La figure du président apparaît dans les films très vite.
Oui, elle apparaît très vite. La naissance d'une nation, le grand chef-d'œuvre de D.W. Griffith en 1915, montrait déjà Lincoln, puisqu'on est dans la naissance de la nation américaine contemporaine avec la guerre de sécession. Et dès lors, tout un nombre de biopics, c'est-à-dire de biographies cinématographiques, ont représenté la vie des grands présidents, que ce soit Lincoln, Roosevelt, Wilson et j'en passe.
Et à la télé, c'est plus récent ?
À la télévision, c'est beaucoup plus récent. Ça date vraiment de la toute fin du XXe siècle, de 1999 exactement, sur les cendres de l'affaire Lewinsky.
Alors, on va faire une distinction entre film, grand écran et série télé. La distinction existe jusqu'à un certain point. On voit des scénaristes qui collaborent aux uns et aux autres.
Oui, tout à fait, mais c'est... Si vous voulez, la série télévisée est à la littérature ce que le roman est à la nouvelle. C'est vraiment le film, c'est très très court. La série télévisée, ça permet le développement sur le temps long et c'est particulièrement approprié pour le récit de l'histoire.
Alors, première partie, les campagnes électorales telles qu'elles sont racontées sur les écrans. Une campagne électorale, c'est le moment où se fabriquent sous les yeux du public des personnages de fiction.
Oui, c'est même parfois le moment où les candidats vraiment se vendent leur personne autant, voire peut-être plus, que leur programme pour séduire l'électorat et la représentation médiatique devient véritablement cinématographique parfois. Et le rapport entre la réalité et la fiction est tout à fait saisissant quand on voit les films qui mettent en scène la politique qui, nous semble parfois plus vrai que ce qu'on peut voir.
Alors pour vous, le grand exemple, c'est Altman, Robert Altman.
Évidemment, le grand exemple, c'est Robert Altman, qui est peut-être un des pionniers de la télévision, puisqu'il a été cinéaste, mais aussi créateur de séries, avec une série qui s'appelait Tanner 88, qui pendant la campagne présidentielle de 1988, avait mis en scène un candidat plus vrai que nature, donc le candidat Tanner, qui était à la fois drôle et pathétique et terriblement attachant dans ses défauts et peut-être déjà terriblement moderne.
Alors je ne sais pas si vous vous souvenez des slogans de Nicolas Sarkozy, François Bayrou, le changement c'est maintenant, une France forte, ça c'est François Bayrou, un peuple uni, rien d'impossible. Vous vous souvenez du slogan de Tanner ?
Mais Tanner c'était « for real ». Pour de vrai.
Pour de vrai.
Ce que je trouve tout à fait alléchant.
Mais alors, nous, on se souvient d'un film plus vieux. Parce qu'on est une équipe de seniors, parfois, à la marge de l'histoire. 1964, réalisation Schaffner, scénario de Gore et Vidal. C'est le film qui, en français, s'appelle « Que le meilleur l'emporte ». Le président sortant est chenu, Art Hochstetter. Il ressemble un petit peu à Truman, vous voyez, c'est le modèle des hommes de terrain. Et il va passer la main.
La politique a beaucoup changé depuis mon époque. L'âge des grands rustos qui fut la mienne est fini, c'est mort. Vous, les types pleins aux as, vous récoltez ce qu'on a semé.
Je ne vous savais pas marxiste.
Marxiste? Je ne connais pas ce mot-là. Non. Il fut un temps où vous autres, les Richards, vous aimiez jouer à des petits jeux tels que le polo. Maintenant, c'est la politique. Mais ce serait peu de chose si je n'étais pas réaliste. Le peuple vous a la bonne. Il se figure qu'ayant tellement de pognon, vous n'allez pas lui voler son argent.
Bon, je ne vais pas vous demander, parce que vous êtes trop jeune, qui double le vieux président Hart ? C'est Robert Dalban. Alors, Robert Dalban, il a raison de voir que pour les campagnes électorales maintenant, il faut une solide formation, une expérience fédérale et il faut beaucoup d'argent.
Oui, il faut beaucoup d'argent parce que, et c'est pour ça que le film date de 65, vraiment aux années, dans les années 60 aux États-Unis, on est dans une mutation politique extrêmement importante, induite par la télévision et par la nécessité désormais de faire des campagnes nationales, d'aller voir tout le monde. Et quel meilleur moyen d'aller voir tout le monde que d'entrer chez les gens par la télévision ? C'est le fameux débat télévisé entre Nixon et Kennedy en 1960, mais c'est aussi vraiment ce qui va changer la politique américaine et qui va faire qu'on passe effectivement de bureaucrates, de gens comme Truman ou de héros de la guerre comme Eisenhower qui n'ont pas besoin de se vendre à la télévision à vraiment des animaux médiatiques comme Kennedy d'abord mais aussi Reagan dans les années 80.
Alors des animaux qui sont capables de déjouer les pièges qui ne tombent pas dans les chausse-trappes. Alors je vous rappelle ce qui s'est passé. Donc que le meilleur l'emporte, le président en sortant approche un des candidats. Cantwell, il hésite à le soutenir parce qu'il ne trouve pas très convenable. Et voilà que Cantwell croit malin de lui montrer comment il compte traiter son adversaire Russell. Écoutez.
Qu'est-ce que c'est que cette saloperie ?
Il y a quelques années, votre candidat William Russell avait eu ce qu'on nomme une dépression nerveuse.
Oui, je suis au courant.
Il a fait de la folie furieuse pendant un an.
Ce n'était pas de la folie furieuse, mais plutôt une sorte de surmenage nerveux.
Oui, d'après la plupart des journaux, mais la vérité, elle est là.
Je la connais, la vérité, Cantwell.
Alors vous n'ignorez pas que c'est de la dynamite. Le dossier complet sur son état mental, comment il s'est éloigné de sa femme, et que leur mariage ne fut qu'un paravent qui servait sa politique.
Comment vous vous êtes procuré ce dossier, je ne veux pas le savoir.
Tous les termes savants sont là, dépression, manie, manifestation paranoïaque, le tout combiné de ses rapports avec ses nombreuses femmes.
Et après ?
Si vous apportez votre appui à Russell, ce soir je vais faire en sorte que tous les membres du Congrès aient une copie du rapport de ce psychiatre. Ensuite, je vais m'attaquer à Russell et je vais lui demander s'il croit vraiment qu'un monsieur avec un pareil dossier puisse devenir président des États-Unis.
Maintenant, pendant les campagnes électorales, les caméras sont contrôlées. Vous avez vu, le Parti Socialiste comme l'UMP en France, sur le modèle américain, il y a des poules qui fournissent les images. Contrôlées donc, censurées par aux médias. Ce qui est formidable dans les fictions, c'est que la caméra peut pénétrer dans la coulisse.
Oui, ou en tout cas qu'elle en donne l'impression. C'est vrai que Les films américains montrent vraiment cet appétit des Américains pour la campagne négative, pour aller fouiller dans le passé de l'adversaire et surtout dans sa vie privée pour la faire éclater au grand jour, avec vraiment cette idée que la vie privée détermine les capacités à assumer des fonctions publiques. Donc ça, c'est vraiment typique des États-Unis et ça arrive en France aujourd'hui. Vraiment cette importance des médias sur finalement le véritable discours, sur la véritable politique qui finalement passe à l'as, en tout cas dans beaucoup de films qui sont censés mettre en scène des présidents.
On raconte aux auditeurs comment se termine que le meilleur l'emporte. C'est un film qu'on voit plus très souvent. Ni Russell le faible, ni Cantwell le rotor ne seront élus. Une parade de dernière minute aura été trouvée pour qu'ils ne se trouvent pas face à face. Et voici le discours testament du vieux président Art Hochstetter.
Et à présent, je tiens à dire que nous avions quelques mauvaises habitudes dans ce pays. L'une d'entre elles, notamment, c'était qu'un juif ou un noir ou un catholique ne pouvait être nommé président. Un catholique peut maintenant être élu à la présidence. Et un jour viendra où nous allons avoir un juif comme président. Et puis nous allons avoir un noir comme président. Une fois que toutes les minorités auront pu dire leur mot, eh bien nous ferons de même. Pour celle que j'ai gardée en dernier, la majorité la plus décriée, c'est aux femmes que je fais allusion.
Eh bien, 40 ans après, au moins dans une série télévisée, on vient insensiblement aux séries qui vous sont chères, Marjolaine Boutet, une série qui s'intitule Commander in Chief, voilà qu'une vice-présidente accède au pouvoir après la disparition de son chef de file, ce qui est impensable pour les autorités constituées, par exemple pour le président de la Chambre des représentants.
Vous êtes légalement devenue la présidente des États-Unis, à moins bien sûr que vous ne démissionniez.
D'où votre présence, Nathan ? Prêt à prendre les rênes et à prêter serment dès que j'aurai sagement quitté la place ?
Vous savez que votre vice-présidence n'a jamais, jamais été destinée à devenir une présidence. Ce n'était qu'un vaste canular. Vous devez le savoir. Vous êtes une femme, vous êtes indépendante, vous êtes professeur.
Présidente d'université.
Et diplômée de philosophie. Mais peu importe, tout ça n'était que théâtre et mise en scène. Le monde est en ébullition, Mac, et tout peut arriver. L'heure n'est pas aux innovations, aux progrès, aux avancées sociales faites pour le plaisir des avancées sociales.
Par exemple, une femme dans le bureau, Val.
Non, par exemple, une femme aux commandes du monde libre. Combien d'États islamiques se plieront-ils aux exigences d'une femme ? Très peu, je le crains.
Non seulement ça, Nathan, mais il y aura aussi cette question. Oui ou non, aura-t-elle le courage d'appuyer sur le bouton ?
Ah, bah, elle est douée pour l'ironie. La future présidente, série de 2005-2006.
Oui, série de 2005-2006. Et puis, il y a eu aussi les deux dernières saisons de 24 heures chrono, dans lesquelles la présidente était une femme et elle, élue par le peuple américain, Alison Taylor. Donc, peut-être que c'est aussi précurseur que l'avait été le personnage de David Palmer dans les premières saisons de 24 heures chrono. C'est vrai que pour l'instant, les femmes présidentes des États-Unis ne sont que des personnages de fiction assez rares. Hein, quand on voit le nombre de présidents des États-Unis qui ont été montrés à la fois au cinéma et à la télévision. Mais il me semble qu'aujourd'hui, la représentation de la femme politique évolue et que de plus en plus dans ces fictions américaines, mais aussi dans quelques fictions européennes, les femmes au pouvoir sont représentées comme tout aussi compétentes, voire plus que leurs homologues masculins. Et peut-être, comme ça a été le cas pour la minorité noire, eh bien peut-être que cela va faire avancer les choses et pourquoi pas.
Vous pensez que les personnages imaginaires ont une influence sur l'opinion réelle et que le président Palmer, président imaginaire de la série 24 heures chrono, une des séries les plus connues, a imprimé les esprits.
Je ne pense pas que ce soit Palmer tout seul. Je pense que c'est un mouvement vraiment de représentation de la minorité noire de façon générale à la télévision américaine depuis les années 80. La représentation de noirs dans des positions de pouvoir, dans des positions d'autorité, qui a progressivement habitué les Américains à accepter, et encore une fois, dans toutes les franges sociales, pas seulement en politique, mais à accepter l'autorité des Noirs et que peut-être pour les femmes, il serait bien que les mentalités changent de la même façon.
Ce président Palmer, président noir dans 24 heures chrono, qui est diffusé sur Fox, qui est rédigé par des scénaristes qui sont parfois républicains. Ça prouve que même dans les milieux apparemment conservateurs, quand ils se mettent ces milieux à produire des séries, ils sont ouverts.
Mais ils sont
pas
ouverts,
nécessairement
mais...
politiquement corrects.
Non, pas nécessairement politiquement corrects. Et puis, pour ce qui concerne les Noirs, quand même, dans l'administration Bush, il y avait Colin Powell qui était secrétaire d'État et Condoleezza Rice qui avait également un pouvoir très, très important. Et aujourd'hui encore, un des candidats qui s'est retiré depuis de la course à la candidature républicaine était lui aussi noir. Donc on aurait pu avoir deux candidats noirs l'un face à l'autre dans ces élections présidentielles de 2012.
Une série même d'origine républicaine, c'est pas comme un talk show d'origine républicaine où tout est bien cadré et formaté, les séries sont toujours traversées de contradictions. Alors vous citez le nom de Bush, on va aussi parler de son prédécesseur Clinton, c'est à cette époque que s'épanouissent les grandes séries télévisées. Alors en hommage à George Bush Jr., voici une chanson de Pink. Alors Pink pose quelques questions au président, lui demande pour qui il prie avant de se coucher. Elle lui demande aussi s'il peut marcher la tête haute. Pouvez-vous encore me regarder dans les yeux et me dire pourquoi ?
Dear Mr. President, come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the streets? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? How do you walk with your head held high? Can you even look me in the eye?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Le président américain à l'écran grand et petit avec Marjolaine Boutet. Alors dans les séries télévisées telles qu'elles s'épanouissent à partir de la fin des années 90, le président Bush n'est pas le président idéal, alors on en imagine dans la perspective républicaine, un meilleur, mais il pourrait y avoir pire. Le président Clinton, parce que c'est là que ça commence, à la fin du deuxième mandat de Clinton, c'est pas le président idéal non plus, et on en imagine un qui serait paré de beaucoup plus de vertus, c'est le héros de la Maison-Blanche.
De la Maison-Blanche, effectivement, créé par Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, en fait, qui est venu à la série télévisée par frustration du cinéma. Il a écrit une comédie romantique qui a eu énormément de succès, Le Président et Miss Wade, en 1995. Et en écrivant cette comédie romantique, il a fait énormément de recherches sur le président des États-Unis. Il a eu des contacts avec des vrais conseillers de Clinton. Et de là est née l'idée folle à l'époque de faire une série qui raconterait les coulisses de la Maison Blanche. Et cette idée folle a été portée à l'écran à un moment encore plus fou de l'histoire américaine. C'est juste après l'affaire Lewinsky, à un moment où vraiment on pensait que les Américains en avaient assez de la politique et étaient totalement désespérés par les frasques de leur président. Eh bien, au contraire, dès 1999 et pendant deux ans, cette série est devenue le troisième programme le plus regardé aux États-Unis, montrant bien que la politique et non pas les histoires de coucherie et les manœuvres des conservateurs contre le président Clinton. La politique, vraiment au sens noble du terme, passionner encore et toujours les Américains et, par extension, les téléspectateurs du monde entier.
Alors, le président Bartlett, le président de fiction de la Maison Blanche, il est le produit d'une équipe, aussi comme l'est une série télévisée. Vous doivent coopérer auteurs, scénaristes, producteurs.
Oui, il y a... Normalement, dans les séries télévisées, il y a une douzaine de scénaristes. Pour À la Maison Blanche, c'est vraiment Aaron Sorkin et des anciens conseillers de Clinton qui créent ce président Bartlett qui, à la tête de Kennedy, il est joué par Martin Sheen. Il a un charisme fou. Il est extrêmement à la fois... C'est un catholique de gauche, si vous voulez. Il a vraiment une vraie conscience morale et une vraie conscience sociale.
Alors le voilà, vous parlez de catholique de gauche, au moment de son investiture, qui réfléchit à la manière dont il va pouvoir prêter serment.
J'ai un gros problème.
Ah oui, vous êtes sur le point de proposer le plus gros virage en matière de politique étrangère depuis le plan Marshall. Ce sera largement impopulaire.
Alors d'accord, j'ai deux problèmes.
Oui.
Je n'ai pas de Bible.
Vous n'avez pas de Bible.
J'ai changé d'avis toute la semaine au sujet de la Bible que je vais utiliser. J'ai finalement opté pour celle de Washington, mais comme par hasard, ça pose problème aux francs-maçons de New York. C'est trop tard pour qu'ils me l'envoient.
Francs-maçons ?
Oui. Charlie essaie d'en trouver une, mais il n'est pas encore là.
Rien ne vous oblige à prêter serment sur la Bible.
Vraiment ?
Oui, vous pourriez prêter serment sur un magazine de sport, si vous le vouliez.
Trouvez-vous que c'est une bonne idée ?
Non.
Certain ?
Je vais chercher Charlie.
Merci.
On vous soutient à fond, monsieur. Épatez-les.
Merci, Josh.
Comment ça, on n'est pas obligé de prêter serment sur la Bible ?
Et non, on n'est pas obligé de prêter serment sur la Bible, même si tous les présidents américains ont prêté serment sur une Bible. Effectivement, la Constitution des États-Unis met en place la séparation des églises et de l'État. Et donc, le président, même lors de son investiture ou même lors d'un serment, pourrait jurer sur ce qu'il veut. Et si Mitt Romney était candidat républicain et s'il était élu en 2012, il pourrait très bien prêter serment d'allégeance à la Constitution des États-Unis en mettant la main sur la livre des Mormons.
Oui, ben ça,
vraiment, il n'y a pas d'obligation.
Je lui souhaite du plaisir.
On est, encore une fois, je pense, dans un scénario de fiction, mais probable, possible.
Alors, je vous entendais évoquer un auteur de scénario de fiction, de télé et de cinéma, c'est Aaron Sorkin,
oui.
Personnage... extraordinaire, beaucoup plus individualiste que beaucoup de gens de sa profession. Et vous entendez émettre un regret, on n'entend pas assez d'écho du président et de Miss Wade, qui est un film qui a eu beaucoup moins de succès que la série télé. Alors, on va entendre un extrait, voire deux, du président et de Miss Wade. Le président a là de lourdes responsabilités en politique étrangère, toujours.
Les F-18 sont en alerte à bord du Nimitz et du Kitty Hawk. Ils n'attendent plus que votre ordre d'attaque, monsieur le président.
Alors nous allons frapper le QG des renseignements libyens.
La NSA confirme que la Libye a préparé le bombardement.
Et le résultat escompté ?
On va raser le bâtiment.
Oui, seulement le QG en question a l'air de se trouver en plein centre de Tripoli. On va toucher quoi d'autre ?
Rien du tout, sauf si on le manque.
Est-ce qu'on va le manquer ?
Non, monsieur.
Il y a combien de personnes qui travaillent dans ce bâtiment ?
Nous avons parlé de ces questions.
J'ai demandé combien de personnes travaillaient dans ce bâtiment, bon Dieu !
J'ai tous les chiffres ici, monsieur le président. Ils font les 3-8, il y a 3 équipes.
Très bien, mais quelle équipe emploie le moins de personnes ? C'est l'équipe de nuit, non ?
Absolument, monsieur. Du personnel de garde, essentiellement.
Et cette équipe commence son service quand ?
Ils sont de service, maintenant.
Monsieur, c'est immédiat. Une action décisive à faible risque. Et c'est une riposte qui est proportionnée.
J'aimerais bien qu'un jour on prenne la peine de m'expliquer les vertus des ripostes proportionnées.
Monsieur le président ?
Attaquez.
Sorkin sait qu'il n'y a pas de bonne solution.
Oui, on voit bien là le président des États-Unis qui est mis en scène dans la plupart des films comme vraiment le leader du monde libre. Hein, notamment dans les années 90, il sauve la planète à plusieurs reprises. Et là aussi, avec ce dilemme qui est un dilemme moral finalement du moindre risque, de ces fameuses victimes collatérales dont on a commencé à entendre parler pendant la première guerre du Golfe. Et de cette idée, faut-il appuyer sur le bouton ou pas ? Faut-il aller détruire un bâtiment à Tripoli dans le film et récemment dans l'histoire, en Syrie aujourd'hui, et risquer de tuer des civils.
L'arbitrage est toujours entre de mauvaises solutions.
Absolument, et c'est ce que montrent très bien d'ailleurs les séries télévisées, c'est que finalement gouverner, c'est choisir la moins mauvaise entre deux solutions, mais qu'il y a très peu de place aux idéaux et aux solutions magiques dans le monde contemporain.
Contradiction entre la fin et les moyens. Si au moins il y avait un climat toujours uni dans la famille présidentielle. Famille présidentielle, c'est très très important dans les séries.
Oui, parce que c'est ça qui permet aux téléspectateurs de se sentir en empathie avec le personnage. C'est ça qui met le président au rang de ses concitoyens. C'est le fait qu'il ait une famille, des problèmes personnels.
Si, c'est ce qui se passe à l'époque des Kennedy. À l'époque des Carter, on l'a oublié, mais Carter s'occupait de ses deux filles. L'une,
oui,
la plus petite, avait 39 ours en peluche. Et l'autre, l'aînée, n'était préoccupée que d'un seul sujet. Ça arrangeait bien son père, le désarmement nucléaire.
Oui, c'était effectivement de l'époque.
Alors, c'est souvent les filles qu'on met en avant dans les films et les séries.
Et c'est également le cas dans la réalité, puisque Clinton avait une fille, Obama en a deux. Le Bush, W. Bush avait également deux filles à la Maison-Blanche. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de jeunes filles qui ont occupé cette résidence présidentielle.
Le prince de Miss Wade, le personnage créé par le scénariste Sorkin.
Quelle heure est-il, s'il vous plaît ?
15h30, monsieur.
Je vais monter dire bonjour à Lucy.
Vous avez le garde des Sceaux à 16h et le président des PME à 16h30 et quelque part là-dedans, vous avez promis 5 minutes à la NPR.
Monsieur le Président.
Ne vous en faites pas. Non, ne t'arrête pas, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est ?
Des exercices.
Bien, tu les interprètes avec talent, tu t'en sors très bien.
Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos ?
J'ai une petite surprise pour toi, chérie.
Ce serait pas un de tes vieux bouquins de cours de terminale que tu m'as obligé à lire du début à la fin pour qu'on en parle au dîner et que je devienne folle ?
Je n'aime pas beaucoup l'expression « vieux bouquin », mais pour le reste, tu as vu juste.
Comprendre la Constitution.
Oui, ton prof de sciences sociales m'a dit que ta classe allait commencer l'étude de la Constitution cette semaine.
Attends, parce que t'as vu Monsieur Linder ?
Oui, c'est ce qu'on appelle un entretien prof-parent dont Monsieur Linder et moi avons été les principaux acteurs. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas les sciences sociales ? Monsieur Linder me dit que tu ne participes jamais aux cours, sauf s'il t'interroge, et même dans ces cas-là, c'est à peine si tu réponds.
Je sais pas.
Lucy, veux-tu regarder ce bouquin ? C'est un sujet formidable. Ce livre parle de ce que nous sommes et de ce que nous voulons. Lis ce qui est écrit à la première page.
Nous, le peuple des États-Unis, afin de former une plus parfaite
union... Là, tu vois ce que je disais, ça attaque dès le départ un livre pareil, ça se dévore.
Je meurs d'impatience.
À la bonne heure, parce que le sujet pourrait très bien se présenter pendant le dîner ce soir.
Tu considères que me torturer, ça fait partie de ton travail ?
Disons que c'est un de mes privilèges à ce soir, ma chérie.
Oui.
Bon, le président Carter, dans la réalité, avait plus de chance avec sa fille, qui avait l'âge du personnage qu'on vient d'entendre. Je recommande au président des États-Unis l'écoute de Mathieu Vidard, c'est dans un instant, et le thème de son émission La tête au carré, c'est comment parler aux enfants. On a voulu donner une vision quand même très positive du président tel qu'il apparaît sur les écrans. C'est qu'il faut redonner confiance en la politique, aux Américains comme aux Français, mais il y a des figures sombres souvent.
Oui, il y a aussi évidemment des figures sombres avec comme modèle Nixon. Souvent, on voit dans 24 heures chrono, notamment le président Logan qui succède au président Palmer.
Alors c'est qui ce président Logan ?
C'est un personnage particulièrement retors à la solde de lobby pétrolier qui a déclaré la guerre dans un pays du Moyen-Orient. Tout évidemment parallèle avec une situation réelle n'est pas du tout fortuite. Et ça montre bien que 24 heures chrono, même si elle a été écrite par des républicains, a volontairement tiré à boulet rouge sur la présidence Bush et sur la guerre en Irak qui a outré y compris une partie de l'électorat républicain.
Mais ce n'est pas le contre-modèle Nixon aussi ?
C'est aussi le contre-modèle Nixon, mais je pense qu'il y a à la fois Nixon et Bush dans ce personnage de Logan, et c'est ça qui fait la force des personnages de fiction, c'est qu'ils sont un amalgame d'énormément de choses et que souvent ils existent aussi par eux-mêmes parce que l'acteur Gregory Hitchin fait une performance absolument formidable dans ce rôle.
Mais même si personne ne range Nixon parmi les bons présidents, certains rangent Nixon parmi les grands présidents, tandis que Logan... corrompu, pervers, il n'y a rien pour le sauver.
Oh, il a une femme avec qui il a une relation quand même très tendre. Il a une femme très malade, alors ça permet d'être en empathie, de l'humaniser avec lui. Non, je crois que c'est ça reste un personnage de fiction. C'est peut-être pas le pire des personnages de 24 heures chrono. Le petit frère Palmer a eu aussi beaucoup de mal à assumer l'héritage de son frère. Enfin, voilà, mais...
Et lui aussi devient président, et c'est un président médiocre. Et la fiction tolère pas très longtemps le médiocre. Et la série a eu moins de succès à partir de ce moment-là. Voilà. Vous diriez-vous que la fiction est au service de la raison? C'est-à-dire que les séries télé comme les films américains... entretiennent un rôle pédagogique,
oui.
Permettent d'éclaircir les enjeux, de hiérarchiser les solutions.
Incontestablement, la fiction politique permet vraiment de la pédagogie, c'est-à-dire de faire passer des idées, des connaissances, grâce à l'attachement affectif des téléspectateurs à des personnages qui vont... en regardant à la Maison-Blanche, se passionner pour Bartlett et comprendre ce qu'est un Super Tuesday, comprendre comment se déroule une élection présidentielle américaine, ce qui est effectivement très fastidieux quand on lit directement la Constitution comme le président essaye de le faire à sa fille dans l'extrait.
Ou quand on suit seulement une campagne électorale dans le vrai, qui est manipulée par l'émotion et qui ne cesse de tourbillonner sans les solutions de lenteur que sait apporter la série télévisée, en dépit des apparences. Camille Poux, Jalaguier, Franck Olivar, Benoît Lagane, Virginie Leduo pour la préparation de cette émission. Vos livres, notamment le dernier aux éditions Ellipse, Series, copie. Demain, les Français ont la parole. Rassurez-vous, c'était en 1789, au temps des cahiers de doléances. Il est 14h.